Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur appelle les autorités provinciales et communales de Kinshasa à assumer pleinement leurs responsabilités dans la gestion sécuritaire de la ville. Jacquemin Chabani a fait cet appel hier jeudi lors d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux responsables locaux des communes de la Tiangou. Nord Kivu, le centre de santé de Nyaruhange dans les Rutshuru éprouve des difficultés de fonctionnement depuis près de 2 mois. À cause des dégâts liés à la pluie, cette structure sanitaire n'est plus à mesure de soigner des populations vulnérables. L'invité de ce journal est le docteur Bertrand Kabembela. Il parle des allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans le secteur humanitaire en RDC, sujet de la thèse de doctorat qu'il vient de défendre en Espagne. Encore une fois, merci d'être avec nous. Pierre Diassinoa et Alain Goy assurent la technique. Et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur interpelle les autorités urbaines devant la montée de l'insécurité dans la partie est de la ville de Kinshasa. Jacquemin Chabani dénonce l'irrégularité des réunions de sécurité dans la capitale qu'il considère comme l'une des causes de la détérioration de la situation sécuritaire. C'était lors d'une réunion du comité provincial de sécurité élargie aux responsables locaux des communes de la Tiangou. Cette rencontre a notamment permis d'évaluer les récentes attaques contre la paroisse Saint-Théophile de Kimbanseke et la 23e communauté évangélique au Congo. On écoute le VPM Jacques Béchabani dans ses propos recueillis par Grâce Amzati Massanzi.
Les dernières évaluations nous amènent au même résultat. La ville de Kinshasa ne tient pas régulièrement ses comités de sécurité. Que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau des communes. Et nous sommes en train de gérer une situation sécuritaire alarmante. Si vous faites une comparaison dans d'autres provinces, vous analysez le comportement des responsables provinciaux urbains dans d'autres provinces, il est totalement différent. Et pourtant, Kinshasa a été la première province à bénéficier de la nouvelle gouvernance. Et ça, nous devons corriger. Il y a une tendance dans la ville de Kinshasa à faire croire que la sécurité n'est pas l'affaire de la ville-province de Kinshasa. Et ça, c'est très mal. C'est irresponsable. Et ça fait partie de toutes les conséquences de l'insécurité qu'on n'arrive pas à gérer. On ne tient pas des comités de sécurité au niveau de la province et ça a un impact sur les communes, sur les quartiers. Aucune coordination dans la question de sécurité. Avez-vous pris des mesures? Êtes-vous conscient de toutes ces menaces? Pourquoi subitement deux églises se font attaquer pratiquement de la même manière? Ça ne vous interpelle pas? Bien vous attendez que le président de la République prenne ça en charge. Pourquoi vous a-t-il donné les responsabilités que vous avez? Qu'est-ce que vous en faites?
Et par ailleurs, l'inspection générale des mines appelle au renforcement des dispositifs de sécurité dans les zones minières. C'est après un incident survenu le 2 mai dernier dans le secteur de Loucha, sur l'axe reliant le site de Pompé à la route de Likasi, territoire de Kambov, dans la province du Haut-Katanga. Dans un communiqué parvenu hier jeudi à Radio Kapi, l'IGM dit avoir appris avec une profonde consternation l'attaque d'un convoi en mission de prospection par des individus armés et cagoulés. Le bilan provisoire fait état de 2 morts, 1 blessé grave et 2 personnes brièvement prises en otage avant leur libération après paiement d'une rançon. Les détails avec vous Grâce Amzati Massanzi.
Selon l'inspection générale des mines, le convoi attaqué était composé de 2 véhicules en mission de prospection dans le secteur de Luisha. Des individus armés et cagoulés ont intercepté les véhicules et ouvert le feu. Le bilan provisoire fait état de 2 décès. Un géologue et son chauffeur, tous 2 de nationalité congolaise. Un autre passager congolais a été grièvement blessé. L'IGM indique également qu'un expatrié et un citoyen congolais ont été pris en otage avant d'être relâchés quelques heures plus tard après paiement d'une rançon. Dans son communiqué, l'inspection générale des mines relève que cette attaque intervient dans un contexte de dégradation préoccupante de la situation sécuritaire dans plusieurs zones minières de la région, marquées notamment par une présence croissante d'individus armés et d'acteurs non étatiques. Elle souligne que cette insécurité affecte directement les activités des opérateurs miniers et constitue une menace sérieuse pour la stabilité des opérations ainsi que pour le climat des affaires dans les secteurs miniers national. Face à cette situation, l'IGM appelle au renforcement des mesures de sécurité afin d'assurer la protection des populations, des travailleurs et des investissements dans les zones minières. Des investigations sont en cours pour identifier et poursuivre les auteurs de cette attaque conformément à la loi, conclut le communiqué.
Et pendant ce temps, en Nord Kivu, de nombreux déplacés qui fuient depuis mardi dernier la localité de Béou Manyama, située à une quarantaine de kilomètres d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, vivent actuellement sans abri à Oicha. Selon des sources de la société civile locale, c'est après une attaque des ADF qui a coûté la vie à plus de 15 civils. La bourgoumestre de la commune rurale d'Oicha alerte sur les besoins humanitaires urgents de se déplacer. Eugénie Kavira Mwenge s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
Compte tenu de la situation sécuritaire aux environs de la commune d'Oicha, il y a un déplacement massif de la population entraînant une forte concentration de la population au sein de la commune d'Oicha et a pour conséquence le manque d'abri et sécurité alimentaire, manque de soins médicaux. Il faut dire que les kidnappings, les portés disparus ont été signalés pendant les incursions. Sur le plan économique, il y a hausse des prix des produits agricoles, des marchandises, pas d'accès aux activités champêtres. Et si par rapport à cette situation malheureuse, je demande à la population d'être vigilante et remonter les alertes de tout mouvement suspect le plus vite possible.
En Ituri, par contre, la MONUSCO renforce ses actions de protection des civils dans plusieurs zones affectées par l'insécurité, notamment dans les territoires de Djougou et d'Irumu. À la suite d'attaques menées par des groupes armés contre des positions de FRDC, la mission onusienne a intensifié ses patrouilles et déployé des bases opérationnelles mobiles afin de sécuriser les populations et stabiliser les zones touchées. Elle a également escorté des civils déplacés vers des sites sécurisés et facilité le transport d'élèves vers les centres de passation d'examen d'État. Écoutez à ce sujet le lieutenant-colonel Charles Idua, porte-parole militaire de la MONUSCO, au micro de Martial Papi Moukeba.
Depuis le 4 mai, la MONUSCO a déployé plusieurs bases opérationnelles mobiles à Lipa et Laoudjou dans le territoire de Djougou, ainsi qu'à Boga Village, Kayensi et Mukasila dans le territoire d'Irumu, afin de renforcer sa présence protectrice et sa capacité de réponse rapide face aux menaces sécuritaires. À la même date, suite à l'attaque du 28 avril menée par les éléments armés du CRP contre des positions des FADC à Pimbo, la MONUSCO a renforcé son dispositif sécuritaire par des patrouilles déployées depuis les bases de Fataki et Jina dans le territoire de Djougou. Ces patrouilles ont été menées à Pimbo et Bassa afin de dissuader les groupes armés et rassurer les populations civiles. Le 2 mai 2026, les casse-blés népalais de la MONUSCO ont assuré le transport sécurisé de 25 élèves, dont 8 filles, ainsi que leur encadreur de Jina Verbunia afin de leur permettre de participer aux examens d'État. Ces actions illustrent l'engagement continu de la MONUSCO en faveur de la protection des civils.
Retour au Nord Kivu, où le centre de santé de Nyaruhange, dans les territoires de Rutshuru, appelle à l'aide après avoir été frappé par une forte pluie. Les murs de la maternité, ainsi que l'incinérateur des déchets de cette structure sanitaire qui dessert plus de 13 000 personnes, ont été endommagés. Ce centre, sans moyens, éprouve des difficultés pour soigner la population vulnérable, constituée aussi des retournés en provenance de l'Ouganda. Écoutez les explications de Roger Bisengimana, infirmier titulaire de ce centre de santé, dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
Une forte pluie a démoli l'incinérateur avec les trois placentas et même le mur de la maternité a été endommagé. Ça fait environ 2 mois, on ne parvient pas vraiment à bien gérer les déchets. Malgré qu'il y a démolition, nous utilisons toujours cet incinérateur. Les besoins sont énormes, hein? Aucun partenaire que nous avons. Donc, vous comprenez que les besoins vraiment sont tellement nombreux. Donc, pour ce qui est de la prise en charge des malades, là, ça cause aussi problème. C'est une population qu'on peut qualifier une population vulnérable. Là où il y a beaucoup de déplacés, ça cause problème pour le paiement des soins. Nous disons vraiment aux bienfaiteurs de pouvoir venir nous aider car nous sommes vraiment dans un besoin pour administrer les soins appropriés et aussi pour la gestion des déchets.
En espérant une assistance des acteurs humanitaires intervenant dans les secteurs de la santé, cette structure continue de fonctionner avec les moyens de bord sur l'axe routier Nyamilima-Ishasha. D'autre part, le parquet général près la Cour de cassation a adressé un réquisitoire à l'Assemblée provinciale du Congo central afin d'obtenir l'autorisation d'entendre le gouverneur Grace Bilolo Nkwanga. Une séance plénière consacrée à cette question s'est tenue hier jeudi en présence du gouverneur concerné. Des détails avec Élise Kavira.
Ce réquisitoire fait suite à une demande du parquet général près la Cour de cassation qui souhaite auditionner le gouverneur du Congo central. Celui-ci est cité dans une affaire présumée de malversation financière et de détournement des fonds publics. La Cour de cassation attend donc désormais la réaction des députés provinciaux sur cette affaire. Une étape considérée comme décisive pour la suite du dossier puisqu'elle conditionne toute éventuelle poursuite judiciaire contre le chef de l'exécutif provincial. Le vote prévu au cours de la plénière n'a finalement pas eu lieu en raison des divergences et des résistances au sein de l'Assemblée provinciale. Aucun député contacté n'a souhaité s'exprimer sur ce sujet. En attendant la décision de l'organe délibérant, ce dossier continue de retenir l'attention de la classe politique ainsi que de la population du Congo central. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
Et puis, plusieurs enfants de la ville de Kananga, au Kasaï central, passent leur journée à laver des motos à la rivière Nganza, une activité qui leur permet de gagner un peu d'argent. Cependant, beaucoup d'entre eux ne fréquentent pas l'école. Même ceux qui y vont éprouvent des difficultés à réviser leurs leçons, faute de temps, indique-t-il. Une situation que déplore une ONG qui milite pour la protection des droits des enfants. Le point avec André Katendenga Lamouloumé.
À la rivière Nganza, des dizaines de motos sont stationnées. Parmi les laveurs de motos, on retrouve plusieurs enfants âgés de 11 à 17 ans. Ces derniers expliquent qu'ils exercent cette activité pour subvenir à leurs besoins. Certains affirment avoir abandonné l'école faute des moyens financiers. D'autres qui poursuivent encore leurs études reconnaissent qu'ils n'ont plus que plus de temps pour réviser leurs leçons après les cours.
J'ai abandonné l'école faute de moyens financiers. Je lave ces motos pour subvenir à mes besoins. Je lave les motos pour gagner un peu d'argent. Je vais d'abord à l'école. Après les cours, je viens travailler ici.
Préoccupé par cette situation, les coordonnateurs de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, Lisa Dell, estime que cette situation compromet l'avenir de ses enfants. Jean-Malice Lungala plaide auprès du gouvernement provincial pour que des mesures soient prises afin que ses enfants retournent sur le banc de l'école.
Nous allons continuer à faire les plaidoyers auprès des autorités compétentes pour que ces enfants soient pris en charge et réintègrent l'école.
Jean-Malice Lungala appelle également le parent à plus de responsabilités. Kananga, André Katendenga Lamouloumé, Radio Kapi.
Le chef de division de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants révèle des avancées significatives dans la mise en œuvre des mécanismes de la Convention relative aux droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Gilbert Lusamba a livré cette information hier jeudi à Kinshasa en marge d'un atelier de formation des membres du réseau des journalistes amis de l'enfant organisé avec l'appui de l'UNICEF. Ces hauts fonctionnaires de l'État ont notamment évoqué l'harmonisation de l'arsenal juridique à travers la révision de plusieurs textes légaux ainsi que la mise en place des structures de défense des droits de l'enfant dans les conseils provinciaux de l'enfant désormais opérationnels dans plusieurs provinces du pays. Gilbert Lusamba est au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Il y a des avancées réelles que le gouvernement de la République a déjà réalisées pour avoir ratifié les instruments juridiques qui protègent l'enfant du niveau international, comme la Convention relative aux droits de l'enfant. Le pays s'est mis à mettre en œuvre les engagements pris au regard de la ratification de ces instruments, ce qui fait que l'arsenal juridique interne a été harmonisé au regard des engagements que nous avons pris. On a mis sur pied les conseils provinciaux de l'enfant. Et tout ça, ce sont des avancées parce que le pays a respecté les orientations du mouvement mondial. Et aussitôt après, le pays a harmonisé les instruments juridiques internes de notre pays pour mettre sur pied la loi portant protection de l'enfant, qui a eu à intégrer beaucoup d'innovations dans notre pays. Il y a maintenant des parents qui comprennent, même dans les écoles, les punitions corporelles ont aussi baissé.
Notez que le chef de division de la protection de l'enfant au ministère du Genre, Famille et Enfants reconnaît tout de même que les efforts sont encore à fournir dans des contrées reculées ou encore dans les zones minières où des enfants subissent énormément d'injustices. Toujours ici à Kinshasa, sur les grandes artères de la ville, de nombreux jeunes se livrent au commerce ambulant au cœur des embouteillages malgré les risques d'accidents. Entre les véhicules à l'arrêt ou à mouvement, ils proposent divers articles bravant chaque jour le danger pour gagner de quoi survivre. Un phénomène qui illustre aussi le manque d'emploi auquel est confrontée une partie de la jeunesse kinoise. Reportage signé Magloire Landou.
Sur le grand boulevard de Kinshasa, klaxons, moteurs allumés et circulation ralentit les rythmes de quotidien. Au cœur de ces embouteillages, de jeunes vendeurs ambulants s'y faufilent entre les véhicules, proposant drapeaux, livres, chargeurs ou encore tapis de voiture. Sous les soleils comme sous la pluie, ils disent n'avoir trouvé aucune autre alternative pour subvenir à leurs besoins malgré les dangers.
La vie est dure, mais si je ne vois pas, personne ne m'aidera. Je suis licencié et le manque de travail m'a poussé à la vente des livres. Vous n'avez jamais manqué quelque chose à mettre sous la dent. Nous courons beaucoup de risques. Il faut une grande prudence, des peurs d'être planté par un véhicule.
Nous qui vendons des chargeurs et des casques aux chauffeurs ici sur le boulevard, c'est compliqué. Nous sommes obligés de courir derrière eux et nous profitons surtout des embouteillages. Si tu ne profites pas du moment, tu ne vends rien. C'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Il faut penser à nos familles, elles doivent survivre. Mais avec la situation du pays, il faut se débrouiller coûte que coûte.
À chaque reprise de la circulation, ces jeunes prennent des risques courant entre les véhicules au danger constant d'un accident. Une réalité qui suscite également des inquiétudes chez certains usagers de la route.
Ces jeunes prennent beaucoup de risques. À tout moment, il peut y avoir un accident, mais ils cherchent seulement à survivre faute d'emploi.
Entre manque d'emploi, débrouillardise et insécurité routière, le commerce ambulant continue de s'imposer dans les rues de la capitale.
Actualité internationale.
L'ancien président du Botswana de 1998 à 2008, Festus Mogae, reconnu pour sa lutte contre le sida et pour avoir mis ce pays d'Afrique australe sur la voie de la prospérité, est mort ce vendredi, a annoncé l'actuel chef d'État, Douma Boko, lors d'une allocution. Lauréat du prix Mo Ibrahim 2008 de la bonne gouvernance en Afrique, Festus Mogae, décédé à 86 ans, avait été récompensé pour avoir développé le pays grâce à la richesse de son sous-sol, en particulier les diamants, dont le Botswana était alors le premier producteur en volume comme en valeur.
L'invité.
L'invité de ce journal est le docteur Bertrand Kabembela. Il parle des allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans le secteur humanitaire en RDC, sujet de la thèse de doctorat qu'il vient de défendre en Espagne. Docteur Bertrand Kabembela s'est penché sur la capacité à concilier la protection des victimes de l'exploitation et abus sexuels et le respect des droits des personnes mises en cause. Il répond aux questions de Paulin Mounanga.
Docteur Bertrand Kabembela, bonjour.
Bonjour, monsieur Paulin Mounanga.
Vous venez de défendre votre thèse en droit international des droits de l'homme qui est intitulée « La gestion des allégations d'exploitation et d'abus sexuels dans les secteurs humanitaires en RDC entre le respect de la présomption d'innocence, la protection des victimes et les obligations éthiques ». Qu'est-ce qu'on entend tout d'abord par exploitation et abus sexuels ?
Dans l'abus sexuel, très souvent, il y a usage de la force ou de la contrainte, ce que les juristes appellent la coercition, ou le fait de profiter d'un rapport inégal. Le rapport inégal, ici, c'est entre les humanitaires et les bénéficiaires, parce que nous avons deux groupes. Il y a un groupe qui vient donner de l'aide et l'autre groupe qui vient pour recevoir l'aide. Dans l'exploitation sexuelle, nous avons la notion d'échange. Vous voulez avoir un emploi, il faut d'abord sortir avec moi. Il a été remarqué que dans le cadre de l'aide humanitaire, certains comportements se sont affichés. C'est entre autres ce que nous venons de dire. Pour donner de l'aide, on exige des rapports sexuels ou on exige de sortir avec le bénéficiaire. Il y a certains humanitaires qui sortent avec, par exemple, les mineurs d'âge. Et toutes ces formes de violence tout à fait particulières qu'on a remarqué que dans le cadre de l'aide humanitaire, c'est ce qu'on appelle l'exploitation et les abus sexuels. Et c'est sur cette thématique qu'a porté notre thèse.
Et dans les allégations de l'exploitation et abus sexuels, on applique la tolérance zéro, surtout dans les secteur humanitaire. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
La tolérance zéro a principalement deux volets. C'est que lorsque un humanitaire commet ce que nous appelons les actes d'exploitation et d'abus sexuels, il doit y avoir des enquêtes. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, lorsque les enquêtes sont concluantes, cet humanitaire sera licencié et on va mettre son nom sur une liste noire. Il ne pourra plus travailler dans le secteur humanitaire. Et sous un autre angle, il faut savoir que la tolérance zéro ne concerne pas seulement les actes positifs, comme je parlais d'un humanitaire qui s'est mal comporté, mais ça dénote aussi les comportements négatifs. Le fait de voir, par exemple, un collègue commettre les actes d'exploitation et d'abus sexuels, sortir avec un membre de la communauté, obliger une contrepartie lorsqu'il y a l'aide humanitaire, si vous ne dénoncez pas, cette fois-là, la tolérance zéro, ça concerne celui qui n'a pas dénoncé. Donc, il y a une tolérance zéro concernant l'action, le mauvais comportement. Il y a aussi une tolérance zéro concernant la personne qui n'a pas dénoncé, qui voyait tout ça, vous qui êtes témoin. Si vous ne dénoncez pas, votre responsabilité sera engagée. La tolérance zéro sera appliquée à cet humanitaire-là.
Docteur Bertrand Kabembela, pourquoi les choix de ces sujets-là?
Le choix est parti d'un constat. Pour ceux qui ne le savent pas, durant les 3 dernières années, j'ai travaillé comme coordonnateur régional chargé de la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Et en tant que chercheur, j'ai constaté qu'il y avait nécessité de travailler au lieu seulement que les gens se plaignent. Des fois, les humanitaires se plaignaient, on voit qu'on n'a pas de droit, il y a injustice, il y a ceci ou cela, les membres de la communauté. Et nous avons voulu travailler sur ça. Et en travaillant sur ça, nous avons constaté, comme vous avez cité le sujet de ma thèse, nous avons constaté une certaine pression entre ces trois notions. La présomption d'innocence contre les mises en cause, la personne qui est accusée, est-ce qu'elle est présumée innocente ou présumée coupable? Deuxièmement, nous avons constaté que aujourd'hui, dans le système humanitaire congolais et même le système mondial, c'est la victime qui est au centre de toutes choses. Donc, elle est primée, c'est la protection de la victime. Deuxième élément de pression. Troisième élément de pression, ce sont les obligations éthiques. Nous venons de parler de la tolérance zéro. Si vous voyez un collègue, vous devez le dénoncer. Dans les obligations éthiques, nous avons d'abord l'humanitaire qui engage sa responsabilité, mais nous avons aussi l'institution qui engage la responsabilité institutionnelle. Vous avez un staff qui s'est mal comporté, vous ne le réprimez pas, vous ne faites pas les enquêtes, votre responsabilité sera aussi engagée. Et lorsque nous avons constaté cette pression-là entre ces trois éléments, nous nous sommes dit, voilà un domaine où nous pouvons travailler et voir comment nous pouvons apporter de nouvelles connaissances pour faire évoluer cette notion.
Docteur Bertrand Kabembela, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, M. Paulin.
Un autre invité, Bertrand Kabembela, qui répondait aux questions de Paul Mounanga. Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par Jean Gandou et Jude Mister Bilanda. Alain Goy et Pierre Diassinois ont assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté. Bonsoir chez vous.